Bonjour, bienvenue sur nos ondes locales ou en podcast pour une nouvelle chronique du passé. Et alors, bonjour Rémi.
Bonjour Martine et bonjour à vous tous, auditeurs. Le Tour de France arrive à Bourg en ce mois de juillet 2023.
Et oui, en effet. Il parcourt l'Ain de Châtillon-sur-Chalaronne au Grand Colombier le vendredi 14 juillet et il arrive à Bourg le jeudi 20 juillet.
Ce n'est pas la première fois qu'il fait étape à Bourg.
Non, il est passé par Bourg-en-Bresse avant d'y faire étape. Mais nous en parlons après avoir écouté quelques notes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Avant de parler du Tour de France dans l'Ain, évoquons cette belle aventure.
Une belle aventure, en effet, puisqu'elle date de 120 ans et la 110e édition se déroule actuellement.
Comment paraît-elle ?
Elle naît à la Belle Époque, en 1903. Dans le cadre d'un fort développement du vélocipède et de la concurrence entre les journaux. Le vélocipède est encore une nouveauté. On aime tester ses capacités, lancer des défis ou proposer des courses sur de très longues distances entre Paris et Bordeaux ou Paris-Brest-Paris. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui. Le vélocipède a apporté la vitesse au peuple. On se déplace de 5 à 10 fois plus vite qu'un homme au pas.
Dans ce contexte particulier, Henri Desgranges, le patron du journal Loto, veut frapper un grand coup.
Face à la forte concurrence au sein de la presse parisienne, il fait ce choix original d'organiser une course pour la survie de son journal.
Il imagine un Tour de France à vélo.
Un Tour de France en 6 étapes et 2428 km. Et des étapes grandioses. Car la première, de Paris à Lyon, est longue de 467 km. Son épreuve va quitter Paris, parcourir les provinces et y revenir. Il ne s'adresse pas qu'aux seuls Parisiens, mais bien à la France entière. En outre, le mot « tour » est intéressant, car il donne une idée de circularité du pays, dessinée dans un cadre idéal, avec des frontières naturelles. Il manque l'Alsace et la Lorraine, mais on ne désespère pas de les récupérer.
Ce sont des hommes de presse qui créent ce Tour de France.
Cela a aussi son importance, car la presse écrite vit son âge d'or, malgré la vive concurrence. Il faut fidéliser ses lecteurs et les feuilletons que tout titre publie sont là pour ça. Les plus grands auteurs s'y sont adonnés.
Martine, quel rapport entre un feuilleton et le vélo ?
Et justement, 6 étapes, c'est déjà 6 épisodes. La longueur des étapes apportera de multiples péripéties, d'autant plus intéressantes que l'on ne peut pas en deviner le déroulement.
Comment les suivre, à Paris ou ailleurs ?
Il suffit de bien faire circuler les informations sur l'ensemble du territoire et d'espacer les étapes pour se donner le temps de le faire. Pour sa première édition, le Tour part de Paris le 1er juillet 1903 et ne revient que le 19 juillet. Bien sûr, cet espacement des étapes permet aux coureurs de récupérer.
Tout est en place pour réussir.
Non, pas encore. La première édition est assez modeste, avec ses 60 concurrents, mais le grain est semé. La seconde édition, 1904, est émaillée d'incidents, tricheries ou autres. Des clous sont même semés sur la route pour retarder des coureurs. Ce mauvais état d'esprit est tel qu'Henri Desgranges envisage de tout abandonner.
Le moment de découragement passé, il repart dans l'aventure.
La longueur des étapes est diminuée et leur nombre augmenté pour limiter les parcours nocturnes. La diffusion de l'automobile permet de mieux accompagner les coureurs sur leur route, d'exercer plus de surveillance. Les contrôleurs ne prennent plus le train pour aller d'un contrôle à un autre. Ils s'assurent davantage de la régularité sportive de l'épreuve.
Si le Tour de France quitte son parcours initial, Bourg-en-Bresse peut espérer le voir passer.
Bourque voit passer le Tour dès juillet 1905, puis le 14 juillet 1907, un jour de fête nationale. En réalité, il passe en prélude à cette fête, en fin de matinée. Les coureurs effectuent l'étape de Belfort à Lyon, longue de 339 km. Ils arrivent par la route de Saint-Étienne-du-Bois, passent par les rues du 4 septembre et Victor Hugo, remontent la rue Voltaire, où, en haut, est installé un contrôle fixe tenu avec l'aide du vélo-club Bressan. Ce n'est pas un passage furtif, mais un arrêt obligatoire pour signer la feuille de contrôle. Ensuite, les coureurs sortent de la ville par le pont de Lyon, construit depuis moins d'un an, et filent sur Lyon.
Les Canors sont passés en tête ?
En effet. Les professionnels dominent la course et ils sont équipés par des marques de vélos qui font leur publicité. Le futur vainqueur 1907 sera Lucien Petit-Breton. Il est de passage à Bourque dans le second groupe, à 3 minutes des premiers. Il appartient à l'équipe Peugeot. Le Tour sera ainsi de passage à Bourg-en-Bresse durant 4 années consécutives, sur la même étape de Belfort à Lyon. Chaque fois, les coureurs traversent à nouveau le département sur l'étape suivante, de Lyon à Grenoble, par la montée du Cerdon, Nantua et Bellegarde.
Ensuite ?
Rémi, c'est la Grande Guerre, 1914 à 1918. Le Tour ne reprend que dès 1919 et il fait étape d'arrivée et de départ à Gex en 1920 et 1924. Les coureurs arrivent de Grenoble. Ils repartent pour Strasbourg en escaladant le beau col de la Faucille dès le départ. L'Alsace et la Lorraine, ainsi ayant été restituées, le Tour les honore.
Le Tour reprend son véritable envol au cours de ces années d'après-guerre.
Durant ces années folles, le public a besoin de s'évader. Le Tour offre un parfum d'aventure et de suspense.
Et des Bressans vont s'impliquer dans cette course.
De modestes Bressans. Pas des professionnels, des simples, entre guillemets, touristes routiers qui doivent financer leur participation par eux-mêmes et avec l'aide de leurs amis. Ils lancent alors des souscriptions. Le premier à s'engager est Jules Gilliard, un Suisse résident à Bourque en 1926, où il termine à la 40e place.
En 1928, nous en retrouvons deux au départ. Jules Gilliard, numéro 206, et Paul Filia, numéro 122, un local.
1928, la belle année pour l'un d'eux. Ils obtiennent déjà leur qualification et plongent dans l'aventure. Sans dégâts, ni de chute grave. Ils franchissent les Pyrénées, les Alpes et les Vosges et restent dans la course. L'étape de Charleville à Malo-les-Bains, longue de 271 km, est fatale à Jules Gilliard.
Le plus dur est pourtant passé et le Tour est à 2 jours de l'arrivée à Paris.
Sauf que les professionnels ont décidé d'embrayer, selon le jargon du métier. Ils imposent une très vive allure. Il n'est pas facile de les suivre. Et la vitesse imposée raccourcit les délais d'arrivée. Paul Filia limite l'écart et termine dans les délais impartis. Mais pas Jules Gilliard. Il est éliminé.
Pas de repêchage ?
Même pas. Le Tour se mérite à la force des pédales. L'épreuve de force a été imposée par les professionnels, une manière à eux d'asseoir leur suprématie. C'est la gloire pour Paul Filia, 25e et vainqueur des touristes routiers. Imaginez le retentissement à Bourg et en Bresse. Un enfant du pays vainqueur. Chaque année, cette heure de gloire survenait dans une province. Cela faisait le charme si particulier du Tour de France.
Les deux coureurs de l'Ain étaient soutenus par des marques concurrentes.
Toutes deux installées à Bourque. Radior pour Paul Filia et Rémo pour Jules Gilliard.
Nous évoquons d'abord celui-ci.
Léon Desmailles avait un commerce de cycles à Bourg-en-Bresse, place de la Comédie. Il créait la marque Rémo après-guerre et construit son usine dans le quartier du Peloux, à l'arrière de la gare, en 1926. Peut-être un peu trop tard, car le public se tourne déjà vers les motocyclettes et la marque cesse son activité en 1931.
Ensuite, Honneur au vainqueur, équipé par Radior, la marque de Joseph Chapollard.
Un valeureux capitaine d'industrie. Il crée d'abord un dépôt de machines à coudre au bas de l'avenue Alsace-Lorraine en 1904. Il diffuse d'autres machines et même des cycles.
Au point de créer sa propre marque.
La marque Radior. Nous l'avons repérée la première fois sur le courrier de l'Ain du 31 décembre 1904. Il déplace son atelier, avenue de la Gare, puis construit son usine au pont de Lyon. Sur un de ses catalogues, on voit que les vélos sont assemblés en grande série. Il construit aussi des motos, des radiorettes.
L'aventure se poursuit jusqu'à quand ?
Jusqu'en 1955. Aux deux roues, le public préfère désormais la voiture. La façade de l'usine Radior existe toujours, telle une friche. Pendant un temps, le site a été occupé par la brasserie régionale. Il est à noter que Paul Filia a créé son atelier de vélo au Mail. Il reste un exemple pour tous les coureurs bressons.
Nous sommes déjà dans l'après-Seconde Guerre mondiale et Bourg-en-Bresse n'a toujours pas été une ville-étape.
Non, toujours pas. En 1947, pour la reprise du Tour, un ravitaillement a lieu devant l'église de Brou. Le Tour gravit le col de la Faucille à de nombreuses reprises et d'Yvonne-les-Bains accueille le Tour en 1967.
C'est toujours l'attente pour Bourg-en-Bresse ?
Jusqu'en 2002, enfin ! À l'issue de l'étape en provenance de Cluse, en Haute-Savoie, le Tour traverse le département et franchit le col du Bertian. Il est à 2 jours de Paris et les maillots distinctifs sont attribués. Comme prévu, l'étape se joue au sprint et le Suédois Thor Hushvud en sort vainqueur.
5 ans après, le Tour revient à Bourg.
En 2007, pour la 5e étape de Semur en Auxois à Bourg, par la Bourgogne et la Haute-Bresse. Une journée marquée par la très longue échappée du Britannique Bradley Wiggins, le futur vainqueur du Tour 2012. Là, il est repris à 7 km de l'arrivée et l'étape se termine par un sprint massif gagné par le Belge Tom Boumen, encore un authentique champion. Le lendemain, le Tour traverse le Bugey pour arriver à Morzine et Richard Virenc, le chouchou des Français, commence à tricoter son maillot à pois de meilleur brinqueur. Grimpeur.
2023 sera donc la 3e arrivée.
Entre-temps, Bourg-en-Bresse a été plusieurs fois ville départ, comme en septembre 2020, le Tour ayant été reporté à cause de la Covid. Le départ a eu lieu devant l'église de Brou, en présence d'une foule très importante.
D'autres cités de l'Ain ont accueilli une arrivée du Tour de France.
Bellegarde, Oyonnax, Culose ou encore Grand Colombier. Depuis quelques années, le Tour aime notre département et réciproquement.
Il sera donc présent à nouveau en cette année 2023 pour 2 étapes. Martine, nous terminons par une note féminine.
Oui, en attendant que le Tour féminin fasse escale dans l'Ain. Au cours de nos recherches, nous avons trouvé une authentique course féminine en 1907, à Polia. Nos auditeurs retrouveront aussi l'histoire du vélo à Bourg sur le site des Chroniques de Bresse. C'est à lire ce mois-ci. Après avoir remercié Jimmy à la technique, eh bien nous nous quittons. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour de nouvelles chroniques du passé. Au revoir à tous.
Au revoir.